est blanche.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Et le vous, c'est toujours notre invité Erwan Kerodi, CEO de Cybelle Angels. Si vous arrivez sur cet épisode, je vous recommande quand même d'aller écouter la première partie. On parle de cette aventure entrepreneuriale dans la cyber.
On parle de cybersécurité, on parle de FBI, on parle de conquête du marché américain. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser... Enfin, aujourd'hui, c'est le même jour, hein, finalement, parce qu'on on va révéler nos petits secrets de fabrique. Hein. On enregistre tout à la fois et ensuite, on peut le diffuser séparément. Mais on est content aussi de parler de l'homme que tu es. Alors, on a commencé à le deviner un peu avec une création d'entreprise avec ton frère. Donc, a priori, ben, on imagine qu'il y a certaines valeurs familiales, déjà, qui vous habitent. Et c'est intéressant aussi de se poser la question, puisqu'on l'a compris, tu as commencé, et je ne révèle rien, mais tu as commencé dans la finance. Donc, tu étais en Inde, et en Inde, travaillant dans la finance, et aujourd'hui, entreprise de cybersécurité qui est en forte croissance et qui est à la conquête du marché américain. Et est-ce que c'est quelque chose que tu voulais, de devenir entrepreneur? On a senti, parce que tu nous as dit que tu pouvais aussi donner des cours, intervenir, donc probablement te poser des questions aussi sur le sens de tout ce que tu fais dans un pays plutôt en voie de développement comme l'Inde, donner des cours aux jeunes filles, notamment dans un pays plutôt défavorisé où les jeunes filles sont moins bien éduquées. Donc probablement tu as voilà, des valeurs et des choses qui t'animent. Et qu'est-ce qui fait que tu as voulu devenir entrepreneur ? Factorisant tout ça.
J'étais à l'origine trader. C'est quoi un trader ? C'est quelqu'un qui achète et qui vend et qui prend un fees au milieu, une commission. J'ai essayé de faire mon travail le mieux que je pouvais. Ensuite, je suis allé le faire en Inde pour cette société. J'étais représentant d'une société française, d'une banque française dans leur joint venture en Inde, pour être complètement précis. Donc j'avais toujours un pied en France. Et je me suis posé la question de quel était le sens de ma vie. C'est-à-dire, ok, donc ma vie, c'est de prendre une commission sur des achats et des ventes qui auront lieu même que je sois là ou que je ne sois pas là, en fait. Hein. Mais c'est bien, mais alors que je sois là ou que je ne sois pas là, c'est-à-dire, c'est quoi ma marque, qu'est-ce que je peux apporter, en
à
fait,
quoi je sers.
À l'édifice, quoi. Et donc c'est là où je me suis dit, et puis en plus ça, j'étais un petit peu énervé parce que j'essayais d'avoir des idées, d'amener des idées qui n'étaient pas forcément entendues, donc je n'avais pas l'impression que mes idées étaient traduites à juste valeur par mes responsables à l'époque. Et donc je me suis dit, bah, écoute, je vais tenter d'essayer de résoudre un problème dans le monde. Et donc j'ai vraiment fait le truc de façon analytique. Je fais, c'est quoi les grands problèmes du monde pour les 20 prochaines années? Et donc le secteur de la cyber, on faisait partie.
Ce que tu expliquais très bien dans cette première partie, un marché, la cyber, et l'envie d'y aller, ce sur quoi on n'est pas allé, c'est ok, il y a un marché, après il va falloir constituer l'équipe.
Je ne me serais pas senti le faire sans mon frère.
Quel que soit le sujet.
T'es un grand frère, un petit frère ?
Un petit frère. Alors c'est un peu la blague, se demander c'est quel est le plus vieux, quel est le plus jeune. Mais en fait c'est mon petit frère. J'ai une affection particulière pour lui. Cette entreprise n'a pas détruit notre relation amicale. Mais effectivement, je me serais pas senti de le faire sans lui pour une raison simple. C'est que moi, je suis le cerveau, je suis l'un des lobes du cerveau de cette entreprise. Le droit ou le gauche, comme tu veux, mais celui.
Mais il faut l'autre.
Du business, de la finance, et il faut l'autre de la tech. Et c'était lui l'autre lobe du cerveau.
Ça amène quand même à une question. Si tu étais parti dans le domaine de la santé ou le domaine de l'éducation, est-ce que malgré tout, tu aurais essayé d'embarquer ton frère dans l'aventure ? Ou là, c'était une conjonction parfaite de « on a un marché, tu as des compétences, j'en ai d'autres, on y va ».
Je pense que c'était lié à notre situation il y a 10 ans. Que maintenant, aujourd'hui, effectivement, on a tous des compétences, lui et moi, diverses. Et si on se lançait, enfin, si je me lançais par exemple dans un truc dans la santé, ce qui est pas le cas, est-ce que je lui demanderais son avis? Ça, c'est sûr. Est-ce que je le ferais avec lui? Ben, en fait, est-ce que dans une logique d'entrepreneuriat, c'est est-ce que lui apporterait la bonne chose au bon endroit au bon moment pour faire naître ce projet? Et inversement, c'est-à-dire si lui il lance un truc, il va me demander mon avis. Je pense qu'il m'embarquera que si j'apporte quelque chose à l'édifice.
Moi, j'ai pas de frère, mais j'ai une sœur. Mais j'imagine quand je projette des relations entre frangins que petit, on se bagarre un peu et qu'on essaye d'avoir le dessus. Est-ce que ça est forcément réglé au moment où vous vous lancez? Est-ce qu'il reste des traces de cette petite guerre fraternelle avec le bon et le mauvais sens de ce qu'il peut y avoir derrière? Et comment gère tout ça quand on est entrepreneur avec un projet derrière?
Ouais, carrément, ouais. Donc en fait, on l'a pris. Donc déjà, on avait, moi j'avais comme une trentaine d'années, donc lui il est un petit 25 ans. On y est sorti de l'adolescence. Mais ça ne nous empêche pas de nous parler comme des frères. Or, en fait, entre fondateurs, tu ne te parles pas comme des frères, tu te parles comme des collaborateurs, comme un partenaire, comme un associé. Donc, il a fallu très vite mettre en place des règles du jeu sur ce qu'on a le droit de se dire et pas le droit de dire.
Et comment on a le droit de le dire?
Alors, on ne lève pas la voix, on utilise un vocabulaire qui est censé être professionnel. Entre nous. Ça déshumanise vachement la relation, mais ça apaise la relation professionnelle. C'est-à-dire qu'on crée une relation professionnelle à partir d'une relation fraternelle. Et on a fait rentrer un troisième fondateur, le fameux troisième larron, qui lui était donc mon ami d'enfance.
Il connaissait bien ton frère aussi ?
Il connaissait très très bien mon frère, il avait le respect des deux. Bon, après, il a oublié d'être bête. Hein. C'est Mathieu Fignaz qui
au
est.
Au passage.
Il est donc normalien, il est mathématicien, chercheur en crypto. Il a fait un PhD à Polytechnique et ensuite il a fait un postdoc à Berkeley en crypto. Et donc, très tôt, on a fait venir Mathieu. Il avait le respect des deux. Et même, c'est écrit dans les statuts qu'on a écrits. Je me souviens quand on arrive à 5h du matin à Paris, on a écrit.
On n'a pas le droit d'élever la voix.
On a écrit dans les statuts que Stéphane et moi décidons de tout dans cette société.
Stéphane, ton frère.
Mon frère. Et moi, sauf si on n'est pas d'accord, c'est Mathieu qui arbitre. C'était écrit dans le statut version 1, je me souviens très bien. Et d'ailleurs, dans les statuts actuels, il y a toujours un pouvoir de trancher, d'ailleurs, Mathieu.
Et alors qu'il est plus...
Non, mais il est au board. Il est plus, okay, il est plus opérationnel, okay. Mais il est toujours au board. Chairman du board. Et effectivement, en mettant en place ces règles d'engagement entre militaires, tu ne mets pas la main dessus en disant « ça n'existe pas ». Tu as une relation d'adulte en disant on va avoir des problèmes, on va avoir des situations où on va être border, parce que une création d'entreprise, t'es toujours un peu border des fois. Eh ben, tu mets en place les règles, voire tu vas même jusqu'à théoriser la règle du conflit, qu'est-ce qui se passe en cas de conflit, voilà. Et c'était salvateur. Et ça, c'était au début, l'acte fondateur, un peu, comment on dirait. Mais ensuite, on l'a évolué. On avait un coach aussi qui nous a suivi pendant pas mal d'années, qui nous a bien aidé à faire évoluer cette relation professionnelle au mieux. Parce que du coup, quand tu arrives à régler ce truc-là, mais t'es imbattable. Avec mon frère, là, on a fait encore pour un... On est parti à Houston faire un deal, pour un très gros deal, une négociation d'une journée et tout. Mais on est imbattable. On se parle pas, on se comprend. C'est de la télépathie, hein, je vous jure. Et donc du coup,
Penses que c'est lié au fait d'être frère ou à un moment en tant qu'associé quand même, même en tant qu'ami, tu te comprends sans parler.
Je sais pas.
C'est sûr que la fraternité, ça augmente, je pense, le niveau de complicité. Mais est-ce que je peux me permettre de te poser? Tu dis que ça a pas entamé la qualité de votre relation, mais est-ce qu'il y a eu des moments quand même de fragilité?
Ouais.
Parce que j'ai été aussi business angel dans pas mal de boîtes. Dans certains cas, c'était un couple, ça a aussi été un frère et une sœur, etc. Souvent, les investisseurs se posent la question en établissant ça plutôt comme une ligne de risque que comme une liste d'opportunités. Alors qu'en fait, la réalité, c'est ce que tu démontres, c'est qu'il y a aussi des opportunités.
Ça peut être les deux, renfort. En fait. Ouais, bien
ça
sûr.
Peut être les deux. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas, je pense, de règles, justement, en la matière. À force de quelques années d'expérience, j'ai appris que la seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Mais quand même, est-ce que tu peux dire qu'il y a eu des moments plus difficiles?
Oui, il y a eu des moments durs. Bah, de toute façon, quand tu testes, c'est comme un couple-couple, hein. S'il faut tester les limites, c'est quand tu testes les limites, tu vois la solidité du couple. Hein. Quand tu montes une boîte, les limites, t'inquiète, elles vont être testées un paquet de fois. Hein. Oui, ça a été des moments durs. Et c'est à ce moment-là où les garde-fous avaient été bien pensés au début.
Et là arrive le troisième larron qui tranche.
Voilà, et qui à un moment...
C'est arrivé qu'il a tranché, effectivement?
Oui, bien sûr. Et puis il y a même un moment, il a dit, écoutez les gars, là sur ces sujets-là, ça fait 2-3 sujets, je pense que vous auriez pu trouver la solution ensemble, donc je vais arrêter de trancher maintenant. Donc on va se parler tous les trois. Ouais. En mode un peu, tu vois, thérapie familiale, quoi. Très sain, en fait, et très sain.
Est-ce qu'il y a un autre frère ou autre sœur dans la famille?
Non, on est tous les deux.
D'accord.
Mais il y a tranché sur une décision liée au boulot et dans une approche et une vision qui n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, comment on organise ça? Où est-ce qu'on va?
Ça a souvent été là où on va, on sait à peu près, on sait où on va aller. C'est souvent dans les trucs plus opérationnels, plus tactiques, où en fait tu peux te permettre de libérer ta parole et de libérer certaines frustrations, voilà, et que t'es pas censé libérer quand t'es dans un cadre professionnel parfois. Donc il faut retrouver un mode de fonctionnement qui est à nouveau professionnel. Donc en vrai, on l'a testé quelques fois. Notre relation professionnelle est hyper apaisée. Le troisième larron est sorti d'ailleurs, puisque maintenant il a monté, je suis assez fier parce que je suis aussi investisseur et au board de cette société-là, il a monté une boîte de cyber. Comme quoi, tu vois, on parlait de l'écosystème qui grossit et tout, ben, c'est peut-être la future licorne qu'on attend, la troisième. Olvid, la messagerie la plus sécurisée du monde, en fait, c'est un WhatsApp que même la NSA ne pourrait pas pirater, si je synthétise. Donc aujourd'hui, des comex de grands groupes du CAC 40 utilisent ça pour communiquer entre eux. Je ne vais pas révéler des secrets d'État. Non, il y a un secret qui est vrai, ça, c'est pas un secret, mais le RAID est client, par exemple. Okay. En cas de négociation, en cas de discussion, de stratégie sur une négociation, ils utilisent Olvid. Et je n'ai pas les secrets d'État, mais j'ai un peu l'impression que dans certains gouvernements, ils sont en train d'acheter. D'accord. Et c'est une messagerie qui est extrêmement sécurisée, qui répond à un problème de cryptographie qui est arrêter d'utiliser Telegram, arrêter d'utiliser
pourquoi
WhatsApp.
Pourquoi?
Aujourd'hui, c'est comme si t'en... Alors, oui, c'est écrit, c'est sécurisé de bout en bout WhatsApp, c'est hyper sécurisé. En fait, tu t'es jamais posé la question que quand tu réinstallais sur un nouveau téléphone, tu réinstallais tous tes messages arrivés, tout était en clair, tout était déjà lu. En fait, c'est pas possible. En fait, tout est archivé sur des serveurs avec un dictionnaire central. Si ce dictionnaire se fait péter, voilà.
Telegram, pareil.
Alors Telegram, oui, c'est les Russes en plus. Donc Telegram, l'actionnaire de Telegram, c'est les actionnaires russes. Donc oui, aujourd'hui, il y a une solution qui est pas mal qui s'appelle Signal, mais pour des vraies solutions professionnelles, il y a que Olvid. Et Olvid, la particularité d'Olvid, Olvid, c'est olvidar en espagnol, qui veut dire oublier. C'est dans une solution comme Telegram, comme WhatsApp, tu as une clé centrale qui peut être volée et qui peut te permettre en fait de déchiffrer tous les messages si tu as accès à cette clé, donc en prenant le contrôle de la clé. Dans Olvid, il n'y a pas de clé, il n'y a rien à voler. C'est-à-dire, c'est Olivier Mathieu, Erwan Kérodi qui s'envoie un message, les clés. On l'a créé une fois, on l'a détruit. Personne ne pourra pirater nos messages.
Vocation comme Telegram, pardon, on fait des digressions, etc. Mais comme Telegram, potentiellement devenir grand public, où il faut être alors, membre de Comex.
Aujourd'hui, c'est disponible. Tu fais Olvid sur Apple Store et le Android Store, c'est disponible gratuitement. Il y a une fonction messagerie, c'est très très sympa. Hein, c'est une tête comme un WhatsApp. Hein. Et il y a même, tu peux même passer des appels téléphoniques qui sont aussi sécurisés, d'ailleurs.
Ou LVID.
OLVID, voilà, OLVID. Le site, c'est olvid.io.
Pour nos prochains dossiers du podcast, il faut, entre Thomas et moi, on a peut-être intérêt, parce qu'il y en a quand même quelques secrets, quoi, donc on devrait utiliser une messagerie sécurisée.
D'ailleurs, tu ne devais pas le dire.
Non, mais alors du coup, pour revenir quand même à Erwan, hein, parce
pardon,
que c'est la thématique de cet épisode-là, je me reposais la question, je reste sur la famille, mais alors du coup, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un petit peu ses ressorts. Hein. Nous, ce qu'on cherche, c'est aussi à inspirer les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui pourraient vouloir comprendre les ressorts, ouais, les difficultés. Alors, donc, bah, on a parlé de ton frère, de votre associé. Et est-ce qu'il y a eu des inspirations communes? Est-ce que ton frère avait aussi envie d'être entrepreneur? Est-ce que c'est toi qui l'as entraîné? Est-ce qu'il y avait un modèle dans la famille, père, grand-père, oncle ou autre.
Et les femmes aussi, hein, on ne sait jamais.
Oui, alors du coup, j'étais sexiste sans le faire exprès, ça peut être effectivement... il n'y avait pas de sœur.
Mais à l'époque, il y avait encore moins de femmes entrepreneurs, donc le potentiel de...
En fait, ils ont une sœur qu'ils avaient cachée, mais...
Non, c'est la complémentarité qui nous a vraiment... Moi, si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs, cherchez le morceau de cerveau qui vous manque. Et personne n'est Superman. Moi, je suis toujours hyper impressionné par des gens comme Jonathan Cherki, par exemple, chez Content Square. Ou, ouais. Enfin, c'est un mono-entrepreneur, quoi. Il est seul à la tête de sa boîte. Il a monté sa boîte tout seul. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Je ne sais pas comment des gens comme ça arrivent. Moi, j'avais ma deuxième jambe, si tu veux. On a deux jambes, on marche plus vite, donc j'ai avec mon frère. Si j'ai un conseil à donner, c'est aller chercher effectivement la compétence qui vous manque ailleurs.
Après, tu peux rester solopreneur et recruter.
Ouais.
Il y a des avantages et des inconvénients, mais il y a des grands débats là-dessus.
J'ai eu quand même du mal aussi, moi, enfin, en tant qu'investisseur, quand il y a un seul entrepreneur, parce qu'il y a des complémentarités, effectivement, de part de cerveau, effectivement, on va dire de hard skills, mais il y a aussi des moments de... Je dirais qu'ils vont avec l'énergie, le moral aussi. Ça peut être plus ou moins, ça peut aller plus ou moins bien dans la vie d'une entreprise. Quand les chiffres vont moins bien, etc., bah, il peut y avoir des relais d'énergie qui se passent, quoi.
Absolument.
J'ai du mal à comprendre comment on peut être vraiment homme orchestre. Alors, bien, il y a eu quelques contre-exemples.
Ouais, il y en a
Jonathan, là,
ouais.
On l'a reçu à ce micro et beaucoup d'admiration pour lui, parce que, y compris la conquête du marché américain et les montants astronomiques qu'il a levés. Mais bon, il est aussi bien entouré. Il a su s'entourer autrement, effectivement.
Moi, je voulais revenir sur... vous avez mis des garde-fous pour que le personnel ne vienne pas interférer dans le professionnel, avec ton frère. Je restais entre associés. Comment on organise notre relation pour que notre relation personnelle qui date ne vienne pas s'immiscer dans le mauvais sens dans la boîte. À l'inverse, quand vous revenez le dimanche, voilà, au
un
repas de famille... Est-ce que là, le professionnel vient à nouveau s'immiscer dans le personnel? Est-ce qu'on... on met de nouvelles règles.
Est-ce que vous pouvez passer les vacances ensemble?
Pas
vous
de,
pouvez
voilà.
plus passer les vacances ensemble.
On passe.
C'est
moins
plus simple comme manière de poser la question.
Non, mais c'était la même chose.
On passe moins de vacances ensemble. Moins de vacances ensemble. C'est-à-dire que le professionnel a tellement pris de la place dans notre relation que en fait on passe moins de vacances. C'est peut-être une façon de souffler.
Vous manquez moins, forcément.
Mais, voilà, on se voit vraiment, mais voilà, on va passer Noël ensemble si ça vous intéresse. Voilà.
Ça s'est très bien passé.
non, mais parce que le risque effectivement, ouais. Et t'as beaucoup de potes associés où à un moment t'as besoin de faire un off, tu fais un peu moins de soirées qu'avant.
Et voilà.
Parce que besoin de.
Et ben c'est la vérité.
Et est-ce que ça peut être perçu comme un frein, le fait qu'il y ait une fratrie au moment du recrutement de certains cadres, etc. Parce qu'ils se disent, bon, bah, il y a forcément une sorte de plafond, enfin voilà, il y a une... je sais pas, est-ce que c'est au contraire peut-être que c'est perçu comme quelque chose de plus pérenne et solide et
Je l'ai jamais vu, le stress chez les employés collaborateurs. Par contre, chez les VC, oui. Mais c'est ça, enfin, c'est une bonne question. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la poser. Et puis, en termes de due diligence, donc, parce que, quand on est investisseur, parce que c'est un vrai risque, je pense. Mais ça peut être un vrai atout si c'est bien géré.
D'accord.
Et la réponse a été, quand on vous a posé la question, manière de...
Ah bah nous, on s'entend très bien. Ouais. Et donc nous, on a expliqué, mais on a dit on s'entend très bien, mais on a théorisé le fait qu'on ne s'entende pas.
C'est peut-être la meilleure manière de...
Il y a une réponse, c'est-à-dire que ça a été anticipé.
Vous voyez moi. Tu l'as expliqué, un peu moins de vacances ensemble, et du coup, chacun dans son coin va pouvoir
s'inspirer, respirer.
Non, mais c'est vrai que quand on s'intéresse à la personne que tu es, on voit bien la passion, hein. La passion cybersécurité, notamment, la passion technique, la passion aussi du monde de l'entrepreneuriat. Et on voit aussi ton intérêt pour la chose sociétale, disons, au sens plus large. Mais ce qui, moi, m'intéresse toujours et qui intéresse nos auditeurs, je pense, c'est vraiment de comprendre ben, qu'est-ce qui se passe ou comment tu t'inspires et qu'est-ce qui fait que tu es la personne que tu es. Est-ce que c'est toujours, par exemple, par des lectures? Est-ce que c'est par des moments qui sont non professionnels? Ou est-ce que ce que tu fais te suffit à t'inspirer et à te documenter dans ton domaine professionnel?
Ça peut rejoindre un sujet... faut faire attention de ne pas se perdre quand on est entrepreneur. L'entreprise peut ton entreprise peut te dévorer. Et au sens propre comme au sens figuré, hein, à un moment, tu peux finir à l'hôpital parce que t'es fatigué, parce que t'es surmené. Les entrepreneurs, on est tous en train de jouer un peu avec nos limites physiques parce que c'est notre boîte, quoi.
On préempte un peu le sujet de la claque.
D'accord, d'accord. Bon, alors, on va pas le dire. Mais donc, du coup... tu peux répéter la question.
Inspiration. Non, savoir est-ce que tu as, en dehors de la vie de
oui,
ton entreprise, des moments d'inspiration, de respiration.
Et donc, du coup, pour moi, il y a un truc sur lequel je suis indécrottable. Je viens de la finance et j'étais trader. Et quand tu es trader, tu ne fais que analyser le monde qui t'entoure, économique et sociétal, pour essayer d'anticiper les grandes tendances, pour savoir si tu achètes ou tu vends. La finalité est assez basique, mais pour y arriver, il y a quand même pas mal d'agrégations d'informations. Et j'ai été. J'ai toujours été passionné d'actualité, d'information, d'histoire, de géographie, de politique, de géopolitique, mais pour comprendre le monde dans lequel on vit. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça que j'ai été formé dans pour mon boulot, et je me suis rendu compte qu'en fait, on comprend mieux le monde dans lequel on s'entoure. Ça, je ne l'ai pas quitté. Je ne l'ai jamais arrêté. Je me documente. Alors, et pour le coup, moi, j'utilise énormément Twitter, pour info, et Wikipédia et compagnie, mais je lis pas mal de livres et tout. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comprendre le monde dans lequel on évolue. Je suis extrêmement curieux. Je passe mon temps à apprendre des trucs. Et c'est comme ça que j'ai l'impression d'être en vie. Voilà. Je sais que de toute une vie, on n'apprendra jamais toute la connaissance qu'il y a dans le monde. Donc, on va en apprendre
un maximum
en enlevant le complexe de se dire qu'on n'y arrivera pas. Voilà, le plus bel outil, je pense, qui devra avoir le prix Nobel de la paix, c'est Wikipédia, par exemple. Quoi. Ça donne accès, ou Internet, ça donne accès à l'information, à la planète, quoi, et à n'importe qui.
Et en même temps, on parlait tout à l'heure de la vérité, du véridique, etc. avec Olivier, et c'est pas forcément que des experts du domaine qui remplissent les fiches Wikipédia, donc à voir aussi avec un peu de recul. Mais du coup, pardon, tu voulais peut-être déjà réagir à ça, mais l'exercice est peut-être pas facile, mais tu parlais de nombreux apprentissages. Alors là, il va falloir épuiser dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être dernières années, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui t'a marqué, que tu trouves potentiellement pertinent à partager avec le risque qu'on le sache peut-être déjà ou peut-être pas et
sur la société ou sur la société avec un grand S ou sur ma société?
Pas forcément sur ta boîte, tout cas, mais
est-ce que
un apprentissage intéressant.
Je ne sais pas si on t'a demandé si tu avais des enfants ou pas.
Je préfère pas répondre à cette question.
D'accord. Non, mais bon,
surtout c'est vie privée. En fait, comme je passe mon temps à courir après les méchants sur Internet, je donne quasiment aucune information sur ma vie privée.
En tout cas, l'idée de l'enseignement, c'est plutôt aussi, je trouve, la question de la transmission aux générations suivantes. C'est aussi quelque chose qui inspire à 40 nuances de next. Donc, que ce soit tes enfants, les enfants des autres, ou tu vois, en tout cas, je trouve que c'est intéressant de se dire, voilà, tu as ce micro et les enseignements, c'est intéressant parce que tu as traversé des épreuves, tu as vécu en Inde, tu connais les États-Unis, etc. Donc, tu as des choses que tu as apprises.
Et tu continues
la transmission, je pense, t'intéresse, que tu as dit aussi que tu avais donné des cours, toi-même, donc du coup, enseigner aussi. Donc voilà, c'est quand on parle d'enseignement, c'est qu'est-ce que tu transmettrais comme aux générations suivantes?
Que je pense que la réponse va vous surprendre, mais que le prochain prix Nobel de la paix sera probablement quelqu'un qui aura développé quelque chose de révolutionnaire sur les énergies. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le monde, les guerres sont toutes de près ou de loin liées en fait à des problèmes sur l'énergie, conflits sur l'énergie, conflits sur l'eau éventuellement, mais l'accès aux ressources, l'accès aux mines. Pourquoi ? Parce qu'on se bat pour des énergies qui sont non renouvelables et qui ont une limite. Il y a un début, il y a une fin. On s'approche de la fin, les prix augmentent. Quand les prix augmentent, les gens sont prêts à faire des choses folles, comme des guerres pour y avoir accès et autres. La guerre en Syrie, la guerre au Mali, tout ça c'est lié. D'autres pays. Et en fait, le jour où on arrivera à craquer de l'énergie qui est massivement accessible, ça peut être soit la fusion nucléaire, soit effectivement le stockage d'énergie comme des batteries du futur qui permettent d'écréter la production d'énergie éolienne ou solaire qui produisent de l'énergie quand on n'en a pas besoin, mais on peut le réutiliser
plus
tard. Voilà, le jour où quelqu'un ou une entreprise aura craqué ce problème-là, je pense qu'on résoudra un grand nombre de problèmes et de guerres dans le monde. Donc si j'ai un projet pour les 30 prochaines années, c'est d'arriver d'espérer que cet entrepreneur craquera ce problème-là.
Et est-ce qu'il y avait cette idée, petit, que tu changerais le monde ?
Alors non, puisqu'en fait, moi je suis dans un milieu qui est assez classe moyenne, quoi. Tu parlais de références paternelles ou maternelles. En fait, mon papa, il était agent immobilier et ma maman était comptable.
Ça n'interdit pas à leurs enfants de changer le monde un jour.
Tout à fait. En revanche, ils m'ont élevé avec deux choses. C'est un couple métis, voilà, de deux d'origines différentes, et ayant vécu, tu vois, des situations un petit peu d'ostratisation, à un moment, vivons heureux, vivons cachés, et respectons les différences. Et ça, pour moi, j'ai été grandi avec cette logique, cette phrase de Paul Valéry qui disait « Enrichissons-nous de nos différences ». Pour moi, c'est une valeur inouïe. Et c'est pour ça que, dès que j'ai pu, je suis parti en Inde. Puis j'ai vécu 5 ans en Thaïlande. Puis maintenant, je vis aux États-Unis. Parce que pour moi, l'autre est quelque chose qui nous enrichit et c'est critique. Et la deuxième chose qu'on m'a expliqué quand j'étais petit, c'est que mon arrière-grand-père, était le monsieur qui, après la Seconde Guerre mondiale, avait racheté toutes les Harley Davidson à l'armée américaine pour les revendre. Et il avait monté le premier business de Harley Davidson en France. Et j'ai toujours eu ça dans ma tête en me disant, bon, en fait...
Je suis un gros fan, j'ai Harley Davidson par ailleurs.
Ah ouais, c'est vrai.
J'adore.
Père aussi. Et il a gardé la fibre. Et donc, mon arrière-grand-père était le monsieur qui avait eu cette idée business un peu folle d'aller voir l'armée américaine et lui dire, vous vous barrez de la France, vous laissez votre charaf ici, c'est quoi, on va vous les racheter. Il a racheté et puis il a stocké dans un entrepôt et il a revendu.
Excellent. Et je me demandais, alors j'ai une question un peu différente, mais je pensais dans la première partie qui était consacrée à Cybele Angel, plutôt il y avait cette projection dans le futur, le monde de demain, etc. Et puis après, je pensais peut-être qu'on allait, je sais pas pourquoi on l'a pas fait, mais qu'on allait arriver à parler des crypto-monnaies. Parce que je me disais, un trader, et puis en plus on parle de cybersécurité, probablement les protocoles blockchain et je sais pas si tu as une réflexion là-dessus, mais je voulais pas te laisser partir sans qu'on en parle un tout petit peu.
C'est ton podcast aussi, on fait exactement ce qu'on veut.
Oui, non, mais voilà. C'est parce que je me dis, il y a cette réflexion aussi. Tu as parlé par exemple de l'accès à l'énergie. Donc, du coup, on parle de mineurs, tu sais, quand on parle des blockchains, ils sont la réflexion sur est-ce que finalement la blockchain, ça va être une des réponses pour proposer plus de sécurité, voire peut-être plus de paix dans un monde décentralisé avec une distribution différente de la valeur. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, étant donné que tu croises cette compétence technologique et un univers de trader, est-ce que c'est quelque chose que vous explorez, que ce soit au titre de Cybele Angel ou pour toi, ou ça, finalement, tu penses que ça n'a pas un grand intérêt?
On avait analysé ça, parce que notamment l'un de nos trois fondateurs, c'est un des grands pontes en crypto, donc le troisième larron qui était à Berkeley, était chercheur en crypto, il est toujours PhD en crypto. Et donc on avait réfléchi à un moment... pour s'amuser, pas pour s'amuser, c'est quand lui il voulait monter une boîte de son côté, il a monté Olvid, mais on avait réfléchi à d'autres sujets avec lui, et monter une logique de messagerie basée sur la blockchain qui permettait en fait, pour moi la messagerie type WhatsApp, Line en Asie ou autre, n'ont en vrai qu'une vocation, c'est de créer un réseau. Et comment tu monétises ce réseau, c'est t'en fais un système de paiement. Et comment tu arrives à rendre ce système de paiement extrême...
Ce qu'a fait WeChat, par exemple.
Et d'emprunt. Tu peux payer d'un côté, mais tu peux éventuellement emprunter. Et comment tu arrives en fait à faire que ce réseau soit équilibré pour savoir qui sont les bons payeurs, qui sont les mauvais payeurs, qui permettent de donner un rating, et donc au bon rating, aux personnes d'emprunter encore mieux, encore plus.
Du credit score, quoi.
Du credit score automatique avec la blockchain. Et ça, on avait réfléchi à un système comme ça de messagerie. Ensuite, c'est devenu Olvid, qui est devenu une messagerie pure et dure, très sécurisée. Mais la logique derrière, il y avait potentiellement une logique de blockchain.
Peut-être une V2 pour Olvid annoncer...
Je ne sais pas. Je leur laisse gérer leur roadmap.
Mais est-ce que du coup, l'univers de la cybersécurité croisé avec la crypto, c'est quelque chose qui a un champ d'investigation qui t'intéresse? Est-ce que tu spécules sur les cryptos venant du trading, par exemple?
Non, venant du trading, très tôt, je me suis dit surtout ne pas le faire, parce que quand j'ai vu les armées de zinzin qui se jetaient dessus sans rien comprendre et en se disant je suis le meilleur trader du monde à la petite journée, on a revu les termes, les scalpers, les day traders, ça c'est marrant. Ça, c'est tous les indicateurs sur lesquels il faut surtout pas mettre les doigts dedans.
Non, parce que quand tu nous as parlé de ces sommets de hackers à Las Vegas, etc., moi ça m'a rappelé aussi parfois effectivement des réunions un peu de spécialistes du Bitcoin, etc., où des geeks qui détiennent une vérité, une façon de voir le monde et qui sont entre eux dans un univers assez fermé mais complètement spécialisé. Et donc je me suis dit qu'il y avait des ponts probablement entre ces univers, mais non.
Pas tant que ça. Sur la cryptographie, oui. Sur les crypto-monnaies, non.
D'accord.
Cryptographie, oui, parce qu'en fait, justement, c'est ce qui permet de fermer les portes aux hackers.
Oui, mais comme on imagine qu'il y a beaucoup d'argent dans cet univers-là, on pourrait imaginer qu'on cherche aussi des failles de sécurité pour te voler.
À ce jour, il n'y a aucune entreprise industrielle ou commerciale qui fait de son fer de lance des crypto-monnaies ou autre. Ou du blockchain.
Je mets un autre sujet sur la table, comme vous êtes tous les deux entrepreneurs investisseurs, vous me direz si on pourra cuter, si vous ne le sentez pas, mais on a eu deux entrepreneurs qui ont crié récemment à l'injustice, qui ont été sortis par leur fonds, les mecs de Solendro, j'imagine vous avez vu passer l'info, quelqu'un veut... C'est compliqué parce que j'imagine que vous connaissez peut-être de part et d'autre les personnes concernées, Mais c'est quand même un sujet qui se pose parfois chez les entrepreneurs, la relation aux investisseurs. J'aurais suffisamment large pour vous laisser la capacité de rebondir ou pas.
Moi, je n'aurais pas forcément beaucoup de réactions là sur ce sujet, parce qu'après, ça devient touchy.
C'est curieux, donc je suis allé lire en fait la version des entrepreneurs. Je suis allé lire la version des fonds. J'ai vu beaucoup de disparités, de différences entre les deux. C'est un peu comme dans une histoire de couple, quoi. Quand il y a un problème, je me dis que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, surtout quand les avis écrits divergent autant. Je crois que le cas a été jugé, donc je me référais à ce que dit la justice, pour être très honnête.
Oui, mais moi, en plus, très souvent, je connais beaucoup d'entrepreneurs et des investisseurs, et puis ça m'arrive d'être que les uns appellent ou autres. Il y a eu d'autres cas par le passé. Et encore plus, heureusement, j'ai plus la casquette France Digital, mais c'est parfois compliqué de rester neutre, parce que quand on écoute juste une version, ça paraît complètement évident que la personne qui la raconte a raison. Mais la réalité, c'est que c'est des réalités à beaucoup de facettes.
Bon, presque sans transition, on parle de claque. On l'a beaucoup évoqué. Ta claque, t'as dit non, mais j'en parle pas tout de suite. C'est surtout moi d'ailleurs qui t'ai demandé de pas trop en parler. Mais tu parlais de la claque
et
de l'entrepreneur.
Et surtout qu'on a un super jingle, il faut que tu le mettes là.
Oui, t'as raison.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Voilà.
Ah, pas mal.
Alors voilà.
Alors, c'est à toi, la grande claque.
La grande claque que je me suis prise.
Ouais. C'est même un temps long, je crois.
Ouais, non, mais ouais. En vrai, quand t'es entrepreneur, alors je sais pas si c'est que pour moi ou soit, mais en fait, quand on discute un peu avec mes congénères entrepreneurs, on se rend compte que je suis pas complètement isolé. On peut se perdre dans sa propre boîte. Elle t'aspire, est-ce qu'elle te dévore, t'es pris, tu réveilles la nuit, tu penses à ça, t'as un problème, et en fait, ce petit problème devient énorme. En fait, au début, je le disais, puis je le dis toujours, c'est un roller coaster émotionnel.
Montagne russe.
Montagne russe, ouais. Émotionnelle. Et en vrai, le gros du job de l'entrepreneur au début, c'est de gérer les emmerdes. Donc en vrai, voilà, ton job, c'est gestionnaire d'emmerdes. Et en fait, tu gères les problèmes, et puis en fait, tu vas faire le suivant, et tout ça. Alors, il faut reprendre. Or, en fait, t'es aussi surtout payé pour prendre du recul et savoir où tu dois mener la barque. Et donc, c'est un équilibre qui est un peu subtil, et tu peux te faire justement dévorer par ta propre boîte et te perdre, mais même physiquement, surtout moi, je l'ai monté en Inde, je travaillais ma boîte était en France, j'allais aux États-Unis faire du business, passe ton temps dans les avions, décalage horaire. Alors, je suis devenu un pro, hein, je peux écrire un bouquin sur comment gérer le décalage horaire. Mais en vrai, c'est un des compétences que j'ai appris à la force du poignet, quoi. Et donc, il faut faire très attention de connaître ses limites. Et en fait, on a tous un peu dans ce milieu-là testé nos limites physiques une fois, deux fois. Et c'est une très bonne chose. Parce qu'une fois que tu as connu tes limites, c'est là où tu mets la limite en disant t'amuses pas à jouer avec trop longtemps.
Tu parles de limites physiques, quand on discute un petit peu avant le temps, tu parles même de burn-out ou de frôler ce... ce moment de saturation qui est aussi mental, qui peut avoir des incidences physiques, mais qui est...
Ouais, ben il faut raconter des histoires. Mais à un moment, je suis allé à l'hôpital. Ils ont cru que je faisais une attaque cardiaque. Mais en fait, on avait tous les tests et tout. Ils m'ont dit, mais en fait, il faut juste dormir, monsieur. Parce que tu racontes ta vie, ouais. Et tu dis, mais monsieur, il faut juste arrêter, il faut juste dormir, quoi. Et en fait, c'est vrai. Tu te rends compte qu'en fait, tu bosses comme un dingue depuis deux semaines et tu n'étais quasiment pas dormi, mais parce que tu veux vraiment que... Parce que t'as, au début, c'est 3 personnes, puis 50 personnes, puis 100 personnes, 200 personnes bientôt. La responsabilité augmente derrière et tu veux vraiment bien faire. Tu veux vraiment bien faire pour les employés, pour les collaborateurs, pour tes clients. Et alors, t'es pas un chef orchestre. T'es pas un homme orchestre. Il faut
déléguer
énormément.
Faire confiance.
Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et donc, du coup, avec cette petite mise en garde, tu prends du recul, tu dis attends, qu'est-ce que j'ai loupé là ? Et tu apprends à déléguer.
C'est pas qu'une question d'ambition, parce qu'on peut se dire je cours après une ambition, je veux faire mieux, je veux faire plus grand, je veux aller plus loin. On peut garder tout ça et juste en fait simplement réorganiser sa vie, son temps, la manière de déléguer pour ne renoncer à rien.
Ouais, c'est ça. Apprendre à déléguer, c'est tout simplement tu t'entoures de gens qui sont plus compétents que toi sur des verticales et qui vont travailler de façon beaucoup plus efficace entre eux que toi en leur donnant des ordres, en leur disant tiens, c'est dans cette direction là qu'il faut aller. Quand tu as un peu de temps libre, bah, tu vas pas réouvrir un business plan pour préparer l'année prochaine. Tu vas commencer à lire de l'actualité si l'actualité c'est ta passion. Tu vas aller faire du bateau si du bateau ta passion. Et en fait, tu vas protéger aussi toi, ton entourage direct. Et ça, c'est une claque qui m'a bien appris sur moi-même, mon physique, mon mental. Après, moi, j'avais une chance, c'est que nerveusement, en étant trader avant, nerveusement, j'ai une certaine stabilité où j'ai pas fait un burn-out psychologique. Voilà, c'était plus un
burn-out fatigue,
physique,
quoi.
Physique. Voilà, en m'oubliant moi-même.
La fatigue professionnelle.
Waouh! En 4 minutes, et en moins de 4 minutes, parce que je crois que tu as un avion qui t'attend, et toi un train ou une trottinette, quoi qu'il en soit, la carte blanche d'Erwan...
Là, tu viens de remettre la claque, hein, quand même.
Ah merde, putain, décidément.
Et tu as dit putain, là.
Et bien, ce ne sera pas censuré. Erwan, carte blanche sur le sujet de ton choix, en une minute.
En une minute, en une minute ou deux minutes, bah, je vais revenir sur, je suis désolé, on en a reparlé, mais l'égalité homme-femme. Là, pour moi, c'est un sujet qui est critique et qui commence dès la première, quand les jeunes demoiselles doivent choisir entre les sections littéraires ou sections scientifiques. Des études ont été faites et ont montré qu'en fait, les femmes sont aussi bonnes que les garçons en maths, au même niveau, mais par contre, elles sont aussi très fortes en français.
Et donc du coup, ben, trop souvent
comme je suis très fort dans les deux, je vais peut-être aller dans ce côté-là. Non, en fait, non. Donc déjà à ce moment-là, ça remonte à la seconde, quoi. Donc il va falloir aller là. Plus tard, ensuite, quand tu commences à l'école, tes profs, les profs, tu sais que tu vénères. On a tous eu des profs qu'on a adorés. Parce que moi, c'était que des mecs, hein, principalement, qui m'ont vraiment impressionné. Si tu mets des femmes qui sont inspirantes. Et qui te disent « Ah, mais effectivement, j'aimerais être à la place de cette personne-là. »
Qui sont des rôles modèles.
Oui. Rôles modèles, bon, bah, ça va changer. Si les jeunes filles, on ne leur apprend pas à être sympas, mais à être braves, à être courageuses, bah, c'est ça qui va te permettre de dire bah, « En fait, je veux être à la place de cette personne-là sur la strade dans 3, 4, 5 ans. » Si quand on te propose une promotion, t'es pas là à regarder tous les trucs qui ne fonctionnent pas, mais au contraire, les cases que tu coches, eh ben, faut y aller, faut foncer, faut être brave, faut être courageux, c'est comme ça que j'ai été construite. Pour moi, c'est critique et je trouve que c'est une énorme injustice parce que, comme tu le disais, Thomas, ce monde professionnel a été construit par les hommes, pour les hommes, et je pense que c'est le bon moment de changer ça.
Eh bien, il y a aussi une égalité homme-femme qu'on peut faire assez facilement dans ce podcast. Un ex-40 très masculin, tu t'as vu la transition.
Parfait.
Un ex-40 très masculin, mais ça ne nous empêche pas de le féminiser à notre manière avec les sistas d'une ex-40. Voilà, on passe la main aux femmes. Une femme que tu admires, une femme qui servira, j'espère, de rôle modèle pour tout un tas de jeunes filles demain. Au micro de Solène Etienne, tu penses à...
Je pense à une femme exceptionnelle qui s'appelle Kat Borlangan, qui était donc l'ancienne Madame French Tech, qui est une fille top, c'est devenue une amie, d'origine philippine, pas française jusqu'à l'année dernière. Elle a réussi à arriver en France, ne pas parler français. Elle a réussi à gravir les échelons, les marches, comprendre cet écosystème incroyable qui est l'administration, les startups, en partant de « je suis philippine, je ne parle pas français » à « je suis en France ». Dans une salle du gouvernement avec tous les ministres autour de moi et on va définir la stratégie des startups pour les 10 prochaines années.
Donc de la méritocratie, l'idée que rien n'est joué d'avance et qu'on peut avoir de grandes ambitions.
Et beaucoup de travail surtout, je pense, et du talent. Et elle n'en manque pas. Et franchement, moi je lui tire mon chapeau parce que c'est une femme qui a fait énormément de bien à la French Tech et bah, elle continue parce que je crois qu'elle bosse dans une boîte de la French Tech.
Oui, je compte voilà. Square en l'occurrence.
Exactement, voilà. Mais c'est une fille.
Elle nous racontera ses nouvelles aventures.
C'est une fille exceptionnelle. Ouais.
Et est-ce que tu aurais une question pour elle qui lui sera posée telle quelle? Parce qu'on va extraire ton passage sonore et lui diffuser.
Ouais.
Et comme tu la connais bien, tu peux aussi aller chercher sur du perso. Tu as le droit à deux questions.
Je sais pas ce qu'elle s'autorise à dire en perso. Est-ce qu'elle le dit ou pas? Ouais. Allez, deux questions. Une perso. Tu lui demanderas si j'ai le droit de poser la question perso.
Et elle choisira si elle a envie de répondre.
En vrai, quand tu parles pas français, tu arrives dans un pays où tu connais pas forcément les codes. Moi, je suis arrivé en Thaïlande, c'était pas simple. Je suis arrivé en Inde, c'était pas simple. Je suis arrivé aux États-Unis et j'ai pris le problème comme quand je suis arrivé en Inde et en Thaïlande. C'est-à-dire, je connais pas le pays. C'est pas parce que je mange du McDo et que je mets des Nike que je suis américain, donc j'apprends le truc. Mais je parlais la langue. On parle anglais partout. Elle, je voulais savoir si... les Français qui parlent pas bien anglais, ne parlant pas bien anglais, une Philippine qui parle très bien anglais qui arrive en France peut se dire un jour je vais conquérir la France. Et est-ce que elle est arrivée en se disant je vais y arriver? Ça c'est une grande question parce que je trouve que les marches qu'elle a gravies sont gigantesques. Et moi j'en ai gravi quelques-unes en essayant de craquer les États-Unis et tout, mais elle avait d'autres problèmes à craquer. C'est quelque chose qui me fascine et puis qui rappelle aussi qu'il y a des histoires un peu familiales, donc c'est top. Et la deuxième question, beaucoup plus perso, et il faut lui demander si l'autorisation, elle a un mari exceptionnel qui est dans la tech, qui est une des personnes qui a fait que Eventbrite est aujourd'hui Eventbrite, donc une super start-up, plus qu'une start-up, c'est une énorme société cotée au Nasdaq, je pense d'ailleurs, à San Francisco. Et comment elle a fait, tu vois, pour s'occuper de tous les entrepreneurs de la French Tech et en plus, le soir, quand elle rentre, se taper son entrepreneur de mari à devoir lui parler de ses problèmes d'entrepreneur. Et du coup, savoir si quelque chose, comment elle arrive à gérer, du coup, entre le privé et le public avec, dans ce milieu, uniquement entrepreneur.
Eh bien, ces ou cette question lui seront ou sera posée en ton nom au micro de Solène Etienne, notre associée. Merci à toi, Erwan.
Bon, écoute, on a été ravis de te recevoir, Erwan. On a pu parler de cybersécurité, qui semble un sujet finalement au départ un peu ardu, technique. Et on s'est rendu compte que dans la vie de tous les jours, c'est aussi des questions qui se posent.
On pourrait faire 4 heures.
Ouais, on aurait pu. Enfin, il y a plein de questions du coup qui s'enchaînent, géopolitiques, géostratégiques, internationales, etc. Et félicitations pour ce très très beau parcours et merci de nous avoir autant inspiré. Et donc bon vent.
Merci Olivier. Merci Thomas.
Ouais, j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine version de 40 nuances de Next. On est en train de réfléchir à d'autres manières de repenser ce format pour nous continuer à y prendre beaucoup de plaisir et j'espère aussi pour les auditeurs. Donc, on te réinvitera très certainement. Merci
beaucoup. Thomas. Merci Olivier.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.